Un crime, Georges Bernanos, deuxième partie, chapitre 2, suite et fin. Arrivé dans sa chambre, il se laissa tomber sur le lit, et son regard était celui d'un homme heureux. « Faites-moi donner du punch, Grignol. Oui, du punch. Je vais me saouler pour la seconde fois de ma vie. Ah, jeune homme, vous avez une idée dans la tête? Moi aussi. Je doute seulement que ce soit la même, et... Passez-moi le thermomètre médical, là, dans mon sac. Il ne me quitte jamais. Une manie de célibataire. Écoutez, Grignol, j'ai donné rendez-vous ce soir à l'héritière. Je la recevrai aussi bien dans mon lit, pourquoi pas. 39,8. Ces thermomètres Bosch sont épatants. L'héritière, il s'agit d'ouvrir l'œil, mon ami. Évidemment, je crois la pauvre fille bien incapable de casser les reins de qui que ce soit. Mais on l'a dit très secrète, très renfermée. Les renseignements sont sûrs. Remarquez d'ailleurs qu'elle n'a quitté son chef-lieu qu'avant-hier. Inutile de se monter la tête. Mais on apprend presque toujours quelque chose des imbéciles égarés dans un drame. Les imbéciles sont comme les portes, les ouvre qui veut. Mais comme les portes aussi, on oublie parfois de les fermer. Pourquoi me regardez-vous avec ces yeux-là? Vous me croyez fou? Non, patron, seulement. Eh bien quoi? J'ai eu un moment de dépression, cela peut arriver à tout le monde. Si je vous disais qu'il n'y a pas 2 heures, j'étais presque décidé à ne pas coucher une nuit de plus ici. Que voulez-vous? On n'est pas maître d'impressions pénibles, on les subit. Tenez, une question. Rêvez-vous? Si je rêve? Je veux dire, vous arrive-t-il de faire des rêves? Non pas de ces rêves qui ne sont qu'images désordonnées à la réalité desquelles le dormeur lui-même ne croit guère, mais de vrais rêves, des rêves dont la logique et la vraisemblance sont telles qu'ils semblent se prolonger au-delà du songe, prennent leur place dans nos souvenirs, appartiennent à notre passé. L'effronterie de Grignol est légendaire, mais cela n'a pas réussi encore à lui faire oublier ses débuts difficiles et ses humiliations d'autant plus douloureuses à un homme qui, selon l'expression populaire si naïve et d'ailleurs si pathétique, s'est fait lui-même, qu'il a dû les subir sans les comprendre. Les mots abstraits, les phrases savantes réveillent en lui une timidité naturelle que le cynisme ne recouvre qu'à peine, et il y répond dans son langage avec l'accent du faubourg. « Des fois, » dit-il humblement. Le petit juge délaçait ses bottines, qu'il jeta loin de lui, vers la table de toilette, à la volée, puis il marcha vers le secrétaire, fouilla les tiroirs, et s'approchant de la fenêtre, s'absorba dans l'examen de la photographie, qu'il finit par poser sur la table de nuit avec un grand soupir. « Oui, mon cher, » reprit-il en glissant l'une après l'autre hors de son pantalon, ses jambes blondes et douillettes. « J'arrive à douter de certains faits pourtant récents, parce qu'ils s'accordent trop bien avec mes rêves, de simples rêves, pas moyen d'appeler ça autrement. « Vous avez sûrement besoin de repos, » fit Grignol, perplexe. « Ça ne vous servirait à rien, patron, de vous tourner les sangs. » « Je n'ai jamais été plus raisonnable, » protesta le petit juge. « Quel dommage qu'un métier comme le nôtre ne fasse au fond qu'une part si médiocre à l'inspiration. Il y a en moi quelque chose, une sorte de préjugé, puis encore un respect humain, une pudeur, voilà le mot. Oui, une pudeur imbécile qui me retient d'utiliser franchement un rêve. Mais qu'est-ce qu'un rêve, Grignol, après tout? Dans le sommeil, notre cerveau travaille à sa guise, libre de toute idée préconçue, capable de n'importe quelle audace. Le fait est, remarqua poliment Grignol, que l'esprit continue à travailler la nuit. Je me souviens qu'en 1922... Ne vous souvenez pas, inutile. Accrochez plutôt mon pardessus au porte-manteau. Lorsqu'arrivera l'héritière... La surprise ou l'admiration ramena sur les lèvres de l'inspecteur ces formules de la déférence servile dont il avait eu jadis tant de peine à se corriger. « Monsieur le juge ne va pas... Souffrant comme est monsieur le juge... Voyons, patron, je pourrai toujours... Rien ou tout, je lui parlerai seul. » Il s'étendit jusqu'au fond du lit, en geignant de plaisir. « J'ai déjà mes petits renseignements sur la gouvernante, Grignol, mais provisoirement, je préfère les garder pour moi. Ce suicide a failli me casser les bras, mon cher. N'importe, de ce côté-là aussi, vous devriez commencer à déblayer. D'accord, j'ai même idée d'en dire 2 mois gassicourt, une vieille folle Morfino, la brigade spéciale a peut-être entendu parler de ça. Bien sûr, rien de plus facile que de suivre un de ces types-là dans la vie. Aussi facile que de repérer les bons hommes en plein Sahara lorsqu'on connaît les points d'eau. Avec ça qu'ils tiennent à leurs habitudes. J'ai connu jadis une Américaine qui se fournissait depuis 12 ans à un danseur nègre de la rue Caulaincourt. Le nègre coffré, elle n'a pas eu le courage de chercher un autre fournisseur, elle s'est coupée la gorge, rac. Et maintenant, mon vieux, envoyez-moi l'héritière, et filez. Il tendit à l'inspecteur une main sèche et brûlante, ramena les draps jusqu'à son menton et ferma les yeux. « Allumez la lampe, » fit-il encore. « Au fait, si le lys dans la vallée est en bas, ne la laissez pas monter tout de suite. J'ai besoin de réfléchir 10 minutes. » Le patron travaille du chapeau, dit Grignol au docteur qui faisait le plein de son réservoir à la pompe des demoiselles Simplici. « On croit ça, » répliqua le médecin de Mégère, philosophe. « La grippe cet hiver débute mal. Des températures du tonnerre de Dieu. On ne sait jamais si le cœur ne flanchera pas. C'est embêtant. Malheureusement, j'ai une visite urgente à Trévières. Je le verrai ce soir. On ne va tout de même pas lui laisser faire des bêtises. Quelles bêtises ? Il s'est mis dans la tête de recevoir la demoiselle de Châteauroux, arrivée hier. La nièce, quoi, l'héritière. Et après, elle ne va pas le manger. Voyez-vous, Grignol, je connais Fraîcheville depuis presque aussi longtemps que vous. C'est un bonhomme très fort, avec son air rondouillard et son sacré bête de nez à la Roxelane. Mais il se croit encore plus fort, comprenez? Ça le perdra. D'ailleurs, je ne l'ai pas vu ici, votre héritière. Dites donc, Simplici, personne n'est venu pour Fraîcheville? La vieille fille glissa vers l'inspecteur un regard oblique. Sûr qu'on est venu, fit-elle de sa voix aigre. On est venu et on revient. Tenez, la voilà au bout de la place. Monsieur le juge avait dit 6 heures. Faut toujours savoir ce qu'on veut. Elle tourna le dos et s'enfonça de nouveau dans les ténèbres de la boutique où elle attendait depuis tant d'hivers elle ne savait quoi, heure ou malheur, entre les barils de Soret. L'héritière avançait à petits pas, visiblement intimidée par l'hypocrite solitude de la petite place vers laquelle convergent de toutes parts les rayons flamboyants des vitres. Après un dernier arrêt devant le ruisseau boueux, elle cessa d'hésiter, se dirigea droit vers la porte de l'hôtel. « Mademoiselle, » commença Grignol, « je suis chargée par monsieur le juge d'instruction Fraîcheville. » Il reculait doucement, cherchant sournoisement à se placer lui-même à contre-jour, mais elle continuait de lui faire face. Derrière le voile baissé, à peine distinguait-il son regard. « Monsieur, » dit-elle, « Grignol, inspecteur de la brigade de Lyon. » Elle glissa doucement une de ses mains jusqu'à son front, découvrit un visage pensif, aux yeux myopes. « Je venais voir monsieur le juge, » fit-elle. Son accent n'était pas celui du reproche, mais d'un étonnement poli. Néanmoins, il embarrassa l'inspecteur. « Monsieur le juge est malade, » interrompit-il presque grossièrement. « Je crois qu'il vous faudra remettre votre visite à demain, ou plus tard peut-être. » « Je dois quitter Mégère demain soir, » reprit-elle. « Certaines formalités me sont trop désagréables à remplir dans certaines circonstances. Bref, il me semble que je dois à la mémoire de ma tante. » Elle n'acheva pas, posant sur ses lèvres avec une toux discrète sa main gantée de noir. « Cet héritage est tellement inattendu, j'aurais trop de scrupules à hâter, à paraître hâter. Enfin, monsieur, il m'est réellement pénible de recevoir une fortune des mains qui se sont refusées jusqu'au dernier jour à mon père. « Une fois riche, » commença l'inspecteur. Mais elle le regarda droit dans les yeux, sans répondre. Il voyait maintenant son visage en pleine lumière et s'étonnait de le trouver si différent de ce qu'il avait imaginé, avec on ne savait quoi de distrait, qui semblait déjouer d'avance ses grossières ruses, mettait hors de portée cette fille étrange. La myopie, sans doute, accusait encore le caractère singulier des traits, d'ailleurs beaucoup plus fins et spirituels qu'on eût pu l'attendre d'une provinciale dévote. Mais les paupières closes, il se marquait encore au vague sourire des lèvres, au pli du petit front bombé. Elle fit un pas vers la porte, et Grignol comprit que cette proie bizarre allait lui échapper à jamais. Une minute de plus, et sa curiosité se fut probablement lassée. Mais si légère que fût sa déception, elle n'en éveilla pas moins au fond de lui le réflexe professionnel du chasseur d'hommes. « Veuillez attendre une seconde, » dit-il. « Je vais toujours prévenir mon chef. » Il avait prononcé la phrase presque sans réflexion, et aussitôt il eut le sentiment de s'être mis, selon une de ses expressions favorites, dans la gueule du loup. Il monta quatre à quatre l'escalier, comme on s'échappe. L'héritière est en bas, patron. À sa grande surprise, il trouva le petit juge assis au pied du lit, les jambes enveloppées dans sa couverture de voyage, son pardessus jeté sur les épaules. Les joues, de plus en plus rouges, avaient pris le ton doré de certains émaux. « Il n'y a pas de quoi crier au feu, » dit-il avec beaucoup de calme. « Qu'est-ce que vous attendez maintenant? Faites-la monter. » « Sérieusement, patron, je pourrais d'abord... »« Ah non, grignole, ne vous payez pas ma tête. Croyez-vous que j'aurais pris la peine de me lever avec une température de 40 2/10? Oui, monsieur, pour entamer avec vous une controverse académique. Faites-la monter, sacrebleu. » L'inspecteur redescendit l'escalier en grommelant et il faillit se heurter à l'héritière, debout sur le premier palier, dans l'ombre. « Écoutez, commença-t-il, je vais vous prévenir. Tenez-vous tellement à le voir maintenant, le juge ?» Elle haussa les épaules et, tirant de son sac une paire de lunettes cerclées d'or, les glissa de travers sur son nez. « Parce qu'à vous parler franchement, il a pigé une grippe, une fameuse grippe. Mais si c'est quand même dans votre idée de monter, restez pas trop longtemps, j'arrangerai ça. Entre nous, je comprends que vous ayez hâte de filer. Le pays est plutôt macabre, brrr !»«
Monsieur, dit-elle avec son plus étrange sourire, chez nous non plus ce n'est pas gai. »
Elle remit tranquillement ses lunettes dans son sac, monta l'escalier, disparut. Une seconde après, il entendit grincer la serrure. « Pour culotter, elle l'est, » fit-il entre ses dents. « Je crois bien qu'elle est entrée sans frapper. Avec ça qu'il y a trois portes dans le couloir, comment diable a-t-elle reconnu la bonne ?» Il s'assit philosophiquement sur une marche et commença de repasser, avec méthode, le pli de son pantalon. Un instant, l'idée lui vint de se rapprocher de la chambre du juge, mais il réfléchit que la portière de cretonne doublée, à la mode antique, d'épais molleton, lui laissait peu de chances de satisfaire sa curiosité. Il s'exposait, en outre, de la part du magistrat surexcité, presque délirant, à quelque humiliation cuisante. La tête entre les mains, il s'efforçait de fixer son attention sur le murmure confus qui, à travers la cloison vitrée, venait à lui du magasin des quatre tilleuls. À plusieurs reprises, il crut même reconnaître la voix du brigadier et entendre prononcer son nom. Le temps s'écoulait ainsi sans qu'il y prît garde, et tout à coup, le craquement d'une lame de parquet l'éveilla comme d'un songe. La demoiselle de Châteauroux était derrière lui, une main posée à plat sur le mur, le visage penché vers le sien. « Vous devriez monter, monsieur, » dit-elle d'une voix douce. « J'ai un peu l'expérience des malades et je crois que... Il a beaucoup de fièvre et il ne sait réellement plus ce qu'il dit. Hein? Quoi, par exemple? Et ce sacré docteur qui ne revient pas ?» Elle avait déjà descendu deux marches, tourna la tête et sourit. « Ne vous inquiétez pas, » fit-elle. « J'ai pensé simplement que je risquais de le fatiguer pour rien. Mais ces accidents-là ne sont pas graves, au début d'une forte grippe. Donnez-lui de l'aspirine, voilà tout. » Son ton était celui de l'indifférence courtoise et il en imposait à l'inspecteur qui balbutia. « Qu'est-ce qu'il a fait ?»« Je pense qu'il s'est endormi, » dit-elle. « Il m'avait demandé de s'étendre sur son lit. Il a parlé encore un moment et... « Ne le réveillez pas, monsieur, » reprit-elle comme il empoignait la rampe. Mais en deux bonds, il fut en haut de l'escalier. Le patron semblait dormir paisiblement et même son visage avait perdu ce teint de pourpre cireuse qui avait paru à l'inspecteur quelques moments plus tôt si bizarre. Il semblait même presque pâle sous ses cheveux noircis et collés par la sueur. Une minute, Grignol hésita, puis marcha sans bruit vers la fenêtre et souleva le rideau. La place était vide. « Déjà filé, » murmura-t-il à voix basse. « Qu'y a-t-il, mon cher? À qui parlez-vous ? » Le petit juge s'était dressé dans son lit, un coude posé sur la table de nuit. « Comment ça va, patron ?» Pas mal, beaucoup mieux. Me lèverai demain. En attendant, vous ferez mieux de dormir. Le docteur a promis de passer ce soir, après sa tournée. Je me fiche du docteur, bredouilla le malade d'une voix pâteuse. Restez là une minute. Voyons, voyons, où en sommes-nous? Sacrée grippe, je me sens de mieux en mieux et pas capable de joindre deux idées ensemble. Ça colle au cerveau comme un caramel au palais.
Son regard, épié en dessous, grignole, avec l'expression à la fois humble et fanfaronne d'un homme dont la mémoire hésite, titube et qui répugne à l'avouer. « Curieuse fille, dit-il. Très curieuse, hein ?» Il cligna de l'œil vers la porte. « J'ai raté mon effet. Tombé de sommeil. Une sorte d'étourdissement, mon vieux. Ridicule. J'ai été ridicule, pas vrai ?»« Voyons, patron, comment voulez-vous que je vous réponde ? Je viens d'arriver, je n'étais pas là. » Il regrette aussitôt sa phrase, mais l'embarras croissant du petit juge luttant contre le délire et lui disputant on ne savait quel secret, avait quelque chose de funèbre. « Je le sais bien, parbleu. Est-ce que vous me prenez pour... » Mais il n'imposa pas plus longtemps à ses traits une expression si peu en accord avec sa grandissante angoisse. La face ronde et joviale parut s'affaisser tout à coup, la bouche cessa de sourire, eut le pli de la nausée. « Ce sont ces satanés rêves, balbutia-t-il. Que voulez-vous ? Il y a évidemment des ressemblances extraordinaires. Avouez tout de même que reprendre comme ça, en plein jour, avec une créature de chair et d'os, la conversation commencée la nuit précédente avec un personnage imaginaire, un fantôme, rien. C'est plus qu'il n'en faut pour vous mettre la cervelle à l'envers, hein ? Mais il y a la photo. Sans doute, de 12 à 30, une fille peut changer. N'importe, voyez-vous-même. Tonnerre, où est ma photo ? Il lança hors des draps ses courtes jambes et, repoussant des deux mains l'inspecteur, il essaya vainement de se mettre debout. « Allons, patron, du calme, quelle photo ?»« Inutile maintenant, » reprit le petit juge, faisant visiblement, pour dissimuler sa déception aux yeux d'un collaborateur d'ailleurs peu bienveillant, un effort immense. « Une simple photo trouvée au presbytère l'autre jour. Ça m'apprendra, mon cher, à tourner de l'œil devant une ingénue berrichonne. La futée l'aura subtilisée sous mon nez, à ma barbe. » Il essaya de rire, promenant les mains sur son front ruisselant. Sa voix restait calme, mais l'oreille exercée de l'inspecteur y distinguait une sorte de résonance métallique. « Il avait l'air de parler au fond d'une boîte de fer blanc, » dira-t-il plus tard. « Est-ce que vous allez vous tenir tranquille ?» demanda le docteur de Mégère, surgit brusquement devant eux. « On m'annonce que vous dormez. Je monte l'escalier sur la pointe des pieds pour vous entendre bavarder comme deux maraîchères à la foire de Verchin. Monsieur Grignole, allez m'attendre un moment dans le couloir. » « Et vous, Fraîcheville, donnez votre pouls, là !»« Mauvaise affaire, » fit-il quelques minutes plus tard à l'oreille de l'inspecteur. « Le cœur est faible, les deux bases ont l'air de s'engorger. Je vais toujours relever le pouls. Eh bien, mon cher, sans vous offenser, je trouve que vous avez aussi une drôle de tête. Intéressante, l'histoire qu'il vient de vous raconter ?»«
Oui et non. C'est-à-dire que j'aurais besoin... » Mais le médecin de Mégère lui barra la route.
« Non, Grignole, non. Assez pour ce soir. » Vous ne savez pas qu'avec une pareille fièvre, nous sommes à la merci d'un raté cardiaque, mon cher. »
Il lui tourna le dos et fit brutalement claquer la porte. « Excusez-moi, dit-il au petit juge, votre diable d'inspecteur a le don de m'exaspérer. Un idiot. Pas toujours mauvais lorsqu'il se débrouille tout seul, mais un collaborateur impossible. Que voulez-vous ? Il a l'oreille du procureur. Paraît qu'ils vont faire la partie ensemble à Grenoble, chez les filles. « S'agit pas de ça. Répondez-moi franchement, docteur. Est-ce que je... »«
Rien de grave si vous êtes sage. Donnez-moi votre thermomètre et tâchez d'oublier un jour ou deux la veuve Beauchamp, sa gouvernante et votre satané curé de Mégère. » »«
Oui. Figurez-vous qu'il vient de se passer en moi un phénomène assez curieux, inquiétant même. La demoiselle de Châteauroux, la nièce, l'héritière, quoi, vous comprenez ?» « Sors d'ici, oui, de ma chambre. » Je lui parlais, comme je vous parle, et tout à coup, plus rien. Je ne l'ai même pas vu filer, mon cher.
Syncope, petite syncope, dame avec une température pareille. »
Le médecin de Mégère trempait délicatement sa seringue dans l'éther. Il s'arrêta, le petit doigt levé, la tête penchée sur l'épaule droite, avec l'expression habituelle aux hommes de son état, cette espèce de sourire câlin, équivoque, qu'il arrive aussi de retrouver parfois au visage de vieilles entremetteuses, sinistres et funèbres iades de l'amour ou de la mort. « Depuis 3 jours, je ne me reconnais plus, » avoua tristement le petit juge. « Je rêve éveillé, voilà le mot. C'est un état peu ordinaire pour un juge d'instruction chargé d'une affaire si délicate. N'exagérons pas, surexcitation nerveuse, rien de plus. »
Peut-être. Il faudrait que je vous explique. Expliquez ce que vous voudrez. Je suis là pour vous entendre, et vous n'en irez que mieux après. De petites hallucinations, quoi ?
Rien de pareil, mon Dieu. J'avoue que mon cerveau a toujours beaucoup travaillé la nuit, je dors peu. Mais depuis le début de cette malheureuse affaire...
Cauchemar ?
Eh non. Que reste-t-il d'un cauchemar après le réveil ? À quoi peut servir un cauchemar ? Au lieu que...
Tenez, mon cher, supposez qu'une idée me vienne en rêve. Bon, ça arrive à tout le monde. Si j'ouvre les yeux, pute, l'idée s'envole. N'empêche qu'elle est accrochée là, quelque part, dans un recoin de mon cerveau comme une chauve-souris aux poutres du plafond. Mais avouez que la chose se gâte, si bêtes de jour et bêtes de nuit se laissent tomber pêle-mêle et commencent leur ronde.
Le médecin de Mégère, retroussant sa manchette sur son bras velu, poussa délicatement l'aiguille, la retira d'un coup sec, effleura la peau d'un tampon d'ouate, et tournant sur ses talons comme une danseuse, jeta dans l'âtre le flocon blanc imbibé d'éther.
« Après tout, dit-il, dans votre profession, et dans la mienne aussi d'ailleurs, le résultat seul importe. Il y a des gens qui ont gagné le gros lot grâce à un chiffre vu en rêve. Si le juge d'instruction finit par mettre la main sur le coupable, qui s'inquiétera de l'aide apportée en secret au magistrat par l'homme d'imagination, par le poète ?»«
Sans doute, sans doute. Seulement des poètes comme nous, mon cher, ne jonglent pas avec des rimes, mais avec des réputations, des vies humaines. » Une rature sur la page blanche, c'est trop souvent une tête coupée.
Eh bien, Frècheville, que voulez-vous que je vous dise ? Parlez franchement au procureur.
Jamais, protesta le petit juge. Si je dois crever ici, j'emporterai mon secret dans la tombe, comme disent les romanciers feuilletonistes.
À moins que... Écoutez, docteur, j'aimerais tout de même que vous en sachiez quelque chose. Juste de quoi leur en dire deux mots, au cas où. Deux mots, pas plus. Et ça ferait encore une jolie pierre dans la mare aux grenouilles.
Aux grenouilles, eh bé,
justement.
Notre procureur ressemble assez à ça, pas vrai?
Quand je pense que ce batracien gobe l'une après l'autre les plus jolies filles de Grenoble, ça ne me donne pas une riche idée du sexe, parole d'honneur.
Mais le médecin de Mégère dédaigna de relever la plaisanterie. Assis au bord du lit, le bras élégamment passé autour d'un des barreaux du cuivre, il gardait d'un silence glacé, plus pressant, plus impérieux qu'une prière.
« Voyez-vous, dit le petit juge, sans moi, avant 15 jours, ils auront donné leur langue au chat. Pas plus bête que d'autres, peut-être, mais aucune imagination, aucune audace.
Oh, j'avoue que l'affaire est exceptionnelle. On ne rencontre pas deux affaires pareilles dans la vie.
Mais il y a le curé de Mégère.
Une personnalité bien attachante, fit le docteur de sa voix la plus neutre.
Il est l'acteur principal. Poursuivit le petit juge avec une exaltation soudaine. Le centre, le pivot, il est au centre même du crime.
Hein ?
Oh, je ne le crois pas capable d'assassiner les vieilles dames, naturellement. Mais si mon hypothèse est bonne, si ce prêtre extraordinaire joue ici un rôle, nul doute que ce rôle ne soit capital. J'ai d'ailleurs pour sa personne une espèce d'admiration. Qu'il ait commis une faute, même si cette faute n'en est pas une au regard de la loi, je serais attristée de devoir lui attribuer des motifs bas, ou seulement vulgaires. Mais l'évidence est l'évidence. Et j'ai acquis la conviction d'un secret commun au curé de Mégère et à cette dame Louise, mon cher.
Pour celle-là?
Oui, que voulez-vous? En de telles conjonctures et sur des suppositions si fragiles en somme, la règle est de séparer les deux, disons les deux suspects, d'éloigner l'un, de garder près de soi le moins résistant, le moins coriace ?
Juste, mais c'est la vieille qui est partie le plus loin.
Les yeux du petit juge brillèrent de nouveau d'un éclat funèbre, et le creux soudain des joues fit paraître presque pointu le nez balsacien.
Je ne m'attendais pas à ce suicide, dit-il piteusement.
Pas du tout.
Ce n'est qu'une comparse de moins. Vous finirez bien par le rattraper, votre curé de Mégère.
Possible. Mais la vieille femme n'est pas ce qu'on pense. Mes renseignements doivent être contrôlés.
Soit. J'attendrai donc pour en faire état.
Néanmoins,
oh, il ne s'agit que d'une période obscure de sa vie, pas grand-chose, quelques mois sur tant d'années. Bref, en 1902, cette religieuse aurait quitté le couvent pour aller accoucher d'une fille.
Et après ?
Minute. Vous entendez dire qu'une châtelaine octogénaire a été assassinée, une nuit, dans une tranquille maison de campagne, entre une vénérable gouvernante et une boniche de 15 ans,
vous concluez que le crime n'a pas dû germer là, que la graine en aura été apportée d'ailleurs. Mais si vous apprenez que la vénérable gouvernante « Oh, l'amant ne m'importe guère, notez bien, d'autant qu'après... Mon Dieu, après il n'y a rien à lui reprocher, tout est clair. Gouvernante à Mâcon, institutrice à Quimper, gérante d'une pension de famille à Brest. Mais qu'elle ait pu dissimuler 30 ans, voilà ce qui met en garde, mon cher. Je ne parle pas de mensonge. Le menteur habituel est un escroc né, rien de plus, trop instable pour les vrais risques. La fidélité à un seul mensonge est un signe autrement grave. Une longue dissimulation doit faire éclore un jour ou l'autre le drame que chacun de nous porte en soi, à son insu. La dissimulation couvre le crime. « Pardon, remarqua le médecin songeur, encore faut-il savoir si elle a dissimulé l'enfant ou seulement la faute. Bref, l'enfant peut être mort. » Les joues du petit juge s'empourprèrent. « Je crois l'avoir retrouvé, dit-il. Ou du moins...
Permettez, en ce cas il serait encore hardi de conclure. Rien ne prouve que la vieille ne s'est pas simplement désintéressée de lui. Oublier et dissimuler sont deux. »
J'avais des raisons de pencher pour la seconde hypothèse, et le suicide la confirme. Que voulez-vous de plus, mon cher? En 24 heures, je me chargerai de démontrer que, loin d'avoir oublié sa fille, car c'est une fille, la vieille est morte dans l'espoir de la sauver.
Une fille? Ah, vous en êtes sûr? Alors zut!
Car j'avoue que ces histoires fabuleuses commençaient à me monter à la tête, et vous flanquez brutalement du premier coup mes déductions par terre.
À qui pensiez-vous?
Franchement, excusez-moi cet idiot, je pensais au curé de Mégère.
J'ai fait cette supposition avant vous, dit le petit juge en se grattant le nez. Malheureusement, l'état civil et les faits sont d'accord. Aucune issue.
Il éclata de rire.
Alors quoi, l'héritière?
Rien de ce côté-là non plus.
Mais il y avait la photographie, reprit-il, avec une sorte de dignité comique, si peu en rapport avec l'expression presque égarée de son regard, que le docteur se sentit froid dans le dos.
« Quelle photographie ?»«
Une photographie trouvée au presbytère l'autre matin. »
Les lèvres minces du docteur dessinèrent une moue d'ironie, d'ailleurs tempérée par la compassion professionnelle.
« Entre nous, Frècheville, assez causé. Vous feriez mieux de dormir. »
« Oui, dites tout de suite que je délire, ne vous gênez pas. Frais comme l'œil pourtant, mon cher. Et si je vous montrais cette photographie ?»«
Montrez-la-moi. »
« Impossible. »
N'importe.
Figurez-vous une de ces photographies jaunies, tavelées, piquées de chiures de mouche. Là-dessus, tournant le dos à une toile peinte, ne souriez donc pas comme ça, chacun son métier, que diable. Et voyez-vous, docteur, j'ai remarqué depuis longtemps qu'à toute affaire un peu originale correspond, je n'ose pas dire un type humain bien déterminé, non, mais enfin,
par exemple,
entendons-nous. Vous ne refuserez pas d'admettre qu'il puisse exister, entre des individus plus ou moins liés par le même secret, les mêmes mensonges, une certaine ressemblance, ce que les bonnes gens appellent un air de famille. L'air de famille, c'est tout et ce n'est rien. Ça échappe aux classifications ordinaires. Il faut plus que de l'œil pour le reconnaître. Un don, une faculté. J'ai ainsi une vieille parente un peu folle qui repère jusqu'à des cousinages éloignés.
Bon, mais permettez, une photographie de qui, de quoi?
D'une jeune fille de 12-14 ans peut-être, pas davantage. Une pensionnaire avec sa natte sur l'épaule, dans une méchante robe de serge à col blanc. Seulement, une grimace des lèvres, un regard, et ce je ne sais quoi dans le front. Nous n'oublions jamais ces têtes-là, nous autres. Bref, je me suis dit, je la retrouverai.
Vous l'avez retrouvée?
En chair et en os, mon vieux. Elle sort d'ici.
Ça, par exemple, Frècheville?
Même inspiré chaque nuit par des songes, vous n'allez pas me faire croire que vous êtes, du premier coup, capable de retrouver, sans hésiter, sous les espèces d'une femme de 30, une fille de 12 ans. Et qui vous prouve que la fameuse photo appartienne au curé de Mégère? Vous seriez joliment surpris d'apprendre que la pensionnaire mystérieuse est une parente de Madame Céleste, ou même de l'ancien curé.
Sans doute, répliqua le petit juge.
Il cherchait fébrilement son mouchoir sous le traversin et, de guerre lasse, finit par éponger d'un coin du drap son crâne rose. Mais alors, pourquoi? Comment expliquerez-vous qu'elle me laisse si adroitement escamoter cette photographie, notre demoiselle de Châteauroux? Car j'avais posé l'objet là, sur ma table, juste assez en vue pour qu'on le remarquât,
et suffisamment caché pour qu'on pût l'observer à loisir, même à travers les cils, comprenez-vous? Eh bien, le temps de perdre connaissance, oh, quelques secondes à peine, je ne retrouve plus ni la photo ni la demoiselle de Châteauroux. Ah, qu'est-ce que vous dites de ça? Pas grand-chose, des faits troublants, soit. Et encore, je me demande si je les vois telles quelles, ou à travers votre imagination si curieuse, si passionnée. Pour juger de leur importance, d'ailleurs, il faudrait savoir exactement à quoi ils peuvent servir, quel parti vous en tirez, en faveur de quelle hypothèse. Car enfin, Frècheville, ou vous vous suggestionnez vous-même, ou vous me cachez le principal. » Une fois de plus, les traits du petit juge trahirent une émotion singulière et il avala douloureusement sa salive. « Le curé de Mégère, commença-t-il. « Parlons-en, il court encore, votre curé, » fit le docteur avec un méchant rire. « Oh, pardon, un lièvre aussi court vite. Mais si votre chien garde bien la voie, qu'est-ce que ça peut vous fiche ? Vous fumez tranquillement votre pipe, à l'endroit précis où vous n'aurez qu'à serrer la détente, le moment venu, pour rouler votre bête. Or, l'enfant de cœur, mon cher, celui-là, par exemple, possible qu'il garde bien la voie. Seulement, à votre place, je me demanderais s'il est fidèle. » Fidèle ? Pas du tout. Pas à moi, du moins. N'empêche qu'il rabattra le gibier quand même. Question de patience. Oui, en somme, pour quelques paroles obscures échappées à un prêtre que vous estimez supérieur et que moi je trouve un peu, entre nous, un peu suspect, bizarre, vous espérez tenir de lui, un jour ou l'autre, le secret de la vieille gouvernante et que ce secret supposé vous donnera la clé du crime. Que de suppositions, Frècheville, car enfin, une ancienne religieuse, même défroquée, peut, en certaines conjonctures, poser à un prêtre de ces cas de conscience puérile qui... « Eh bien, qu'est-ce que vous fichez là, Grignol ?» dit le petit juge rouge de colère. « J'ai frappé deux fois, » répliqua l'inspecteur Penaud, « et comme je vous entendais parler... » Il se laissa tomber sur une chaise. « D'où venez-vous ? » « Elle est dure, » fit Grignol, « vraiment dure, votre pucelle de Châteauroux. Mais je ne regrette pas de l'avoir reconduite jusqu'à sa chambre, on a causé en camarade. » « Écoutez, patron, il y a dans cette femme-là, parole d'honneur, quelque chose de pas ordinaire. Ça, une dévote, allons donc, je suis fixé. »« Que voulez-vous dire ? » demanda sèchement le docteur. « À votre âge, mon cher, on croit voir des poules partout. »« D'accord, » répliqua Grignol, vexé. « Qu'elle soit ou ne soit pas une bigote à mitaine et à paroissien, ça peut n'avoir aucune importance. Mais qu'elle ait un amant ou non, ça, c'est autre chose, pas vrai, patron ? Je ne me vante pas d'être malin. » Seulement, dans notre métier, on doit comprendre à demi-mot la pensée d'un supérieur. Eh bien, je vous fiche mon billet qu'il y a un homme là-dessous, et que la demoiselle est en main. « À quoi diantre voyez-vous ça ? » demanda le docteur. Il avait quitté sa chaise et fixait sur son interlocuteur un regard chargé d'ironie. « L'idée m'est venue tout de suite, » continua Grignol, sans daigner répondre directement. « Je me suis dit, la chose va intéresser le patron, sûr. Alors j'ai ouvert les yeux et les oreilles. » Une amoureuse, voilà ce qu'elle est. Et le particulier qu'il a dressé, je ne le crois pas le premier venu, non. C'est tout sucre et tout miel, cette femme-là. Un vrai régal pour connaisseurs. Tenez, patron, sans blague, c'est presque trop bien pour un homme. On me dirait que... Hein ? Le petit juge venait de se dresser sur son lit. Ses lèvres tremblaient d'impatience et le côté droit de son visage parut s'immobiliser brusquement, tandis qu'il tournait entre ses dents une langue épaisse d'un rouge sombre. « Photographie » bégaya-t-il. « Écoutez, Grignol. » Mais l'inspecteur eut vainement tendu vers son patron l'une ou l'autre de ses longues oreilles. D'un geste impérieux, le médecin de Mégère l'avait cloué sur place et il ne voyait plus que le dos du praticien penché sur la poitrine du petit juge. « Une syncope, je pense, » fit le docteur. « Passez-moi ma trousse, elle est sur la cheminée. »